Bonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous écoutez l'émission Dissidence musicale présentée par Thierry de Cruzy. Après l'actualité sur les fronts musicaux, je recevrai Angelo Seminara, nationaliste italien, pour une présentation de la chanson alternative italienne, puis Henri Chamou, un ingénieur qui a collecté les premiers enregistrements sonores et créé un site où ils sont accessibles. Pour suivre au quotidien l'actualité des fronts musicaux, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram Front Musical. Alors, on commence le 15 mai par moins 20 degrés. Une rave partie légale en Lozère a lieu dans la pluie et le froid. Des cas d'hypothermie, 120 gendarmes sont sur place et appellent les secours. Ces gentils petits gaulois des villes sont contre le capitalisme, le patriarcat, le réchauffement climatique, mais aucun n'est capable d'allumer un feu. Ces raves ont été empêchées ce même week-end, pour vous donner une dimension du phénomène. Dans la nuit du 22 au 23 mai en Auvergne, près de 1000 personnes et 400 véhicules rassemblés pour une rave party illégale sur la propriété d'une éleveuse de chevaux. Les écolos ne bougeront pas. Comme le remarque le site Brezinfo, la gauche qui décide de ce qu'il faut dénoncer, les tranquilles banquets du canon français, jamais les ravages des rave parties. Sans lien, mais pour la pause musicale, j'évoque Christine Cotton. Elle avait publié une étude sur les vaccins Pfizer. Elle s'est suicidée le 2 juin pour mettre fin aux douleurs physiques qu'elle subissait et qu'aucun traitement ne pouvait atténuer. Elle a écrit les paroles de cette chanson, Le Nouveau Monde.
Quel sera le nouveau monde ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Sous nos pieds, le sol s'effondre, nos vies nous glissent entre les doigts.
Je me suis réveillé d'un rêve chelou où les gens se tiraient dessus à bout portant sans pour autant comprendre pourquoi l'amour est mort ou s'est perdu. L'ennemi n'est pas celui qu'on pense. La bête n'est pas celle que l'on voit. Des marionnettes sur l'état de présidence, désarticulées sur un feu de joie. Les médias nous mentent, indinnovants. Sous le soleil, le froid de novembre. Dès l'âge de 6 ans, larmes 10 ans. J'ai pour maman dans leurs yeux d'innocents. Que l'armée baisse son casque, se battent avec nous contre ces traîtres. 1789, même si le temps passe, les couverts peuvent se remettre.
L'avenir peut sembler sombre.
Avant de m'enlever mes idées, pouvoir me retrouver un peu comme un chien pucé. Ce qu'ils veulent de moi, je le sais déjà. Je suis le gentil comme au cinéma. Sur mon ticket, y'a un code barre qu'ils voudraient graver sur mon bras. Nos cœurs sont dévalisés. Si, ils veulent marquer sur ma peau la faire brûler pour m'enlever.
Affaire Patrick Bruel. Le chanteur est accusé de violences sexuelles depuis 2019. 10 plaintes ont été déposées contre lui, dont celle de l'animatrice Flavie Flamand. Tout avait commencé par un article de Mediapart le 18 mars. Le 19 mai, la chanteuse Nina Guerne déclare qu'en 2015, lors du tournage d'une émission télévisée, une consigne stricte circule au sein de son équipe, interdiction formelle de laisser Nina seule avec lui. Le 20 mai, Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, déclarait sur France Info que le chanteur devrait faire une parenthèse dans sa carrière le temps que la justice soit rendue. M6, en reportage dans la salle où il se produit, montre que son public ne semble pas s'en inquiéter. Pour l'avocat du chanteur, on ne peut pas être serein lorsque vous avez une accumulation d'accusations. Le 21 mai, la pression monte et les premières annulations de concerts sont annoncées. Patrick fait la couverture des magazines, Closer. Téléstar titre que le monde du cinéma brise le silence avec cette déclaration en une « Jamais laisser une femme seule avec Bruel ». Sur CNews, l'avocate Nawa El Haïté prend sa défense. Celui qui doit faire le choix d'aller ou non au concert de Patrick Bruel, c'est le public. Toujours le 21 mai, dans le Figaro, Zemmour soutient le chanteur. La justice, ça veut dire une procédure. Sur BFN, Marine Le Pen considère que Patrick Bruel peut donner des concerts, mais personne n'est obligé d'aller les voir. Il y a un principe fondamental dans le droit, c'est la présomption d'innocence. Le 24 mai sur Europe 1, Finkielkraut prend aussi la défense du chanteur. S'il est présumé innocent, la ferme. En 2009, il avait déjà pris la défense de Polanski en affirmant sur France Inter « Polanski n'est pas pédophile ». Le 28 mai sur CNews, le journaliste de frontières Eric Tegner affirme « J'ai envie de me porter au soutien de Patrick Bruel ». Toujours le 28 mai, la une de Paris Match titre avec le portrait du chanteur « Je sais que ma carrière est terminée ». Le 29 mai, les féministes interrompent sa pièce de théâtre. Le même jour, 20 minutes annonce « Le chanteur annule ses concerts dans tous les festivals de l'été ». La justice ne s'est toujours pas prononcée. Sur le plateau de RMC le 30 mai, Stéphane Denis déclare « Si on commence à arrêter de diffuser les chansons de Patrick Bruel, ça va être très compliqué », après avoir constaté que Nagui les a déjà écartées. Le 31 en Belgique, la Libre titre que Patrick Bruel n'envisage pas du tout de mettre fin à sa carrière. Le 3 juin, sur le plateau de France Info, une journaliste affirme que pour Patrick Bruel, tout le monde savait. Si tout le monde savait, pourquoi France Info n'en a jamais parlé ? Explication, tout le monde avait peur de perdre quelque chose. Le 8 juin, Bruel est placé en garde à vue. Les scandales ne sont pas terminés. Le chanteur Bruno Monero, qui est passé par les émissions de télé-réalité, a déclaré à propos de The Voice Kids. Il y a un directeur de casting qui se tape tous les gamins mineurs auxquels il promet des carrières et des émerveillements. C'est toujours le même, tout le monde le connaît. À côté de ce qui se passe là-bas, Epstein, c'est un ange. La mèche est allumée. Et ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité n'explose aux yeux du public. En 2010, déjà, le chanteur Hervé Villard déclarait au micro de RMC « Des pédophiles, il y en a plein chez les politiques et les juges ». Pause musicale avec la chanson Macron, l'intraitable du balcon, par les chanteurs anonymes.
C'était l'année dernière au mois de mai, l'année 2025, le PSG triomphe, ça ouvre les bouteilles. Mais sur les Champs-Élysées, soudain ça craint un brin, les mortiers d'artifice viennent réveiller les vieilles. Le lendemain matin, devant les caméras, le président fronce les sourcils très très fort. Il prend son petit ton et pointe un doigt vers le bas et jure devant la France qu'ils ont tous eu grand tort. C'est inqualifiable, crie-t-il dans le micro. C'est inacceptable, la force restera à la loi. On balaye les vitrines, on nettoie le métro et l'ordre de la rue reprend ses petits droits. On applaudit le chef, quelle belle autorité. C'est sûr, l'année prochaine, on sera tous tranquilles. Les jeunes ont tremblé devant sa majesté et la paix va régner au milieu de la ville. Mais le temps passe vite, le ballon roule encore. Nous voilà en mai, l'année 2026, le même scénario. C'est la totale, le grand déploiement d'agents, 800 arrestations pour faire de beaux dossiers, mais dans les rues de Paris.
L'industrie musicale est une structure protéiforme qui se développe depuis la commercialisation des premiers enregistrements. Tel un rhizome, elle absorbe toutes les technologies depuis le cylindre, la radio, les micro-sillons, la télévision, le CD et maintenant le numérique pour générer toujours plus de revenus et surtout éliminer tous les répertoires vivants, traditionnels, classiques et liturgiques. La technologie commande la musique. Et les ingénieurs du son sont très performants. Il y a 25 ans, avec Britney Spears, ils ont adopté la voix d'enfant, aussi appelée « baby voice ». Elle donne l'illusion de l'intimité et ses vendeurs. Sauf que ce qui sonne comme une confidence spontanée au micro est souvent le fruit d'un travail d'ingénierie sonore et de direction artistique millimétrée. Tout est faux, trafiqué, artificiel. L'objectif est d'accrocher l'oreille pour créer l'emprise. Alors, les musiciens sont engagés, c'est politique. Sur France Info, le 22 mai, Pascal Obispo affirme « Nous, les chansonniers, nous sommes les résistants de la République ». OuiFM rapporte que Bruce Springsteen reçoit de plus en plus de menaces de mort à cause de ses déclarations politiques. Il débute une tournée et les messages haineux, c'est aussi bon pour la promo. Sur France Culture, le musicien de l'Ultrascore, Christophe Chassol, affirme « La gêne, le malaise, les super connards, les portraits des racistes, c'est ce qui déclenche en moi le rire. J'aime bien quand l'humour fait chuter les rois, les fait tomber de leur piédestal. La musique est bien un agent d'influence. » Après Delphine Ernot et sa plainte contre la chanson de Patrick Sébastien, Jordan Bardella attaque le rappeur Soli pour sa chanson « Facho K.O. ». The Time of Israel présente le livre de Daniel Rachel, sorti en février, qui est la première histoire complète de l'obsession de l'industrie musicale pour le nazisme. Il reproduit les dessins de Hitler faits par John Lennon quand il était enfant, cite David Bowie qui demandait à son décorateur de s'inspirer des rassemblements de Nuremberg, rappelle Sylvie Schuss et son t-shirt à svastika, Roger Waters en uniforme nazi. Tout cela est connu et montre que l'industrie musicale utilise sans problème ses accessoires politiques. Pour l'auteur, l'industrie musicale doit faire face à ses lacunes, s'opposer aux persécutions et remédier à ses failles historiques. Sinon, le rock'n'roll ne sera plus à l'avant-garde de l'esprit révolutionnaire. L'auteur entretient ainsi la fiction du rock agent subversif, alors que le rock n'a jamais été qu'un agent d'influence destiné à remplacer les repères musicaux traditionnels par ceux du mondialisme. Tout expliqué dans mon livre « Démondialiser la musique » paru en 2022 à la Nouvelle Librairie. Pause musicale, je vous invite à écouter l'hymne métal de la colère « Regarde ta cité tomber ». Alors, le 20 mai, The Time of Israel révèle que la France insoumise veut l'annulation d'un concert de la DJ juive Barbara Butch à Grenoble au motif qu'elle a signé une pétition de soutien à la loi Yadan qui veut criminaliser tout soutien au peuple palestinien. Le parti de la gauche radicale relance une campagne contre la DJ des JO. En effet, elle a touché plus de 40 000 euros pour être directrice artistique de la Nuit Blanche à Paris. Son projet est de créer une espèce de chant vibratoire d'amour. Son entretien sur France Info ne rentre pas dans les détails du concept. Son programme a été jugé blasphématoire et 50 fidèles catholiques sont intervenus à l'église Saint-Laurent à Paris pour protester en chantant le rosaire. 6 d'entre eux ont été emmenés en garde à vue et relâchés après 48 heures. Ils ont montré aussi que le chant peut être une arme. Pour mesurer l'emprise de l'industrie musicale, les chiffres des ventes sont éloquents. Les 10 groupes de rock qui ont vendu le plus d'albums de tous les temps totalisent plus de 2,5 milliards d'albums vendus. Ils relèvent l'emprise du rock sur les populations occidentales. Autre exemple, chanté par la colombienne Shakira, Day Day, l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2026, a été lancé par les stars du ballon. Le clip vise les milliards de vues. Le précédent, Vaka Vaka, avait dépassé 4,5 milliards de vues sur YouTube. Sur RTL, Aya Nakamura est présentée comme la reine de France de l'industrie musicale, car elle reste l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Il faut une énorme puissance technologique pour imposer une telle nullité musicale en faisant croire au génie, alors que c'est laid à écouter et à regarder. Enfin, c'est mon point de vue. Il faut suivre le grand remplacement musical. Cette année, Uravena, un des groupes de métal polynésien, est invité au Hellfest, une consécration. Ainsi, les troupes d'occupation culturelle mondialiste ont conquis la Polynésie. En Bretagne, le Télégramme nous apprend que le rappeur Medine va remplacer Kerry James au festival Les Galettes du Monde, à Sainte-Anne-d'Auray. Il ne chantera pas les cantiques de ce sanctuaire marial, objectif du plus grand pèlerinage de Bretagne depuis 400 ans. Organisé par la mairie de Narbonne, la Tempora 2006 s'ouvrira avec Balaké Sissoko et la kora, un instrument de la culture mandingue, un cousin de la harpe éloignée. La 16e édition de ce festival itinérant de musique actuelle d'ici et d'ailleurs est déployée dans les villages de la région pour une ode à la migration entre blues touareg, musique urbaine brésilienne et rock psychédélique auvergnat. F de Souche révèle qu'à la Rock d'Anteron, les élèves de CM1-CM2 vont chanter « Les papiers », un hymne à l'immigration clandestine sur l'air de « Oh Happy Day ». C'est validé par le rectorat. Plutôt que de puiser dans le répertoire traditionnel, les enseignants se lancent dans la création. On sent l'inspiration, l'originalité. En Finlande, un cantique traditionnel chanté depuis des générations lors des fêtes de fin d'année scolaire devient discriminatoire car il évoque Dieu. La mondialisation vise à détruire les repères traditionnels. Derrière les discours, l'objectif est identique, couper les individus de leurs liens ancestraux. Récemment entrée dans l'OTAN, la Finlande doit adopter ses principes. Au 19e, le Printemps des Peuples avait lancé les grandes collectes de chansons traditionnelles qui ont soutenu les nationalismes. Elles doivent être maintenant remplacées par les productions de l'industrie musicale impossibles à chanter, entraînant la dissolution des derniers liens communautaires. Ce programme n'est pas inéluctable. Le 24 mai, au Stade Vélodrome de Marseille, 5000 choristes ont interprété, parmi d'autres titres traditionnels, l'hymne corse, Diovis Salvi Regina, que Dieu vous garde, reine, qui est donc aussi un cantique. La preuve que la chanson traditionnelle est toujours vivante quand un peuple veut la faire vivre. Je vous propose donc d'écouter cette chanson traditionnelle interprétée par le groupe Canta u Populu Corsu. C'est fini. Officiellement, c'est un concours de chansons. En réalité, c'est un front musical stratégique. Le concours a perdu 35 millions d'auditeurs, de téléspectateurs cette année par rapport à l'édition 2025. Avec les 5 pays qui ont boycotté cette édition et les problèmes de fraude sur les votes, faut pas s'étonner. Le président de la télévision publique moldave a même été obligé de démissionner à cause des votes du jury professionnel. qui avait donné 3 points à la Roumanie, alors que le public en avait accordé 12. L'édition 2027 est déjà menacée de boycott. Le directeur de la radio-télévision d'Irlande a été très clair. Notre raisonnement tient toujours. Des civils continuent de mourir en nombre significatif à Gaza et au Liban. Des journalistes continuent d'être pris pour cible. Revenons au cantique. 12 000 collégiens se sont réunis à Janville sur le domaine historique des scouts de France, ce qu'ils appellent un Woodstock chrétien. Ce pèlerinage annuel, statique, est organisé le week-end de la Pentecôte avec l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, et avec la participation du groupe chrétien Glorious. Rock louange contre cantique, comment ne pas voir un front musical alors que 30 000 pèlerins, majoritairement des jeunes, sont sur les routes de Chartres. Le pèlerinage de Chartres est parti le samedi pour 3 jours de marche. Pour soutenir les pèlerins, chanter est indispensable. Le répertoire de cantiques est parfois très ancien et aussi enrichi de compositions plus récentes. L'abbé Gélino, un musicien, donne quelques conseils avec un livret de cantiques en téléchargement. Attention, avec ses lunettes fumées, le canard enchaîné y a vu des stands nostalgiques, la glorification du régime vichiste et de la colonisation, le tout sous les étendards des paras et de la royauté. Ça fait peur. Transition musicale pour notre premier invité, avec une chanson sur le pèlerinage de Chartres par l'IA, Tradimix, les bannières de Chartres.
Ils avaient annoncé les cathédrales mortes, les cloches oubliées, les cierges consumés.
Mais voici revenir du fond des vieilles routes 20 000 jeunes âmes, le rosaire à la main, sous les soleils de France.
Ils avancent encore de Paris jusqu'à Chartres,
comme au temps des anciens.
3 jours sur les chemins, 3 jours de poussière, 3 jours de fatigue, de silence et de prière. Les sacs lourds sur les épaules, les pieds meurtris dans les pierres, mais dans leurs yeux brûlait une lumière éternelle.
Ils marchent pour la messe, ils marchent pour le Christ, pour les chants grégoriens, pour les autels sacrés.
Ils marchent pour la langue qui traversa les siècles, le latin des cathédrales, le souffle des martyrs.
Et les bannières claquent dans le vent, comme les étendards des anciens temps.
Toute une jeunesse que l'on croyait perdue revient à genoux vers Dieu.
Chartres,
les routes de France recommencent à prier.
Chartres,
20 000 jeunes pour relever le passé.
Chartres,
dans les champs monte un vieux chant grégorien, et la France se souvient qu'elle est chrétienne.
Chartres,
les cierges brillent plus fort que les écrans.
Chartres,
le silence écrase le bruit du temps.
Chartres,
ils marchent pour la...
Bonjour Angelo.
Bonjour, bonjour Thierry, bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Vous êtes italien et vous allez nous présenter la musique alternative italienne. En France, ce terme est plutôt réservé aux groupes musicaux gauchistes. En Italie, il désigne des musiciens dissidents proches des courants nationalistes et identitaires. Les nationalistes italiens ont développé un important courant musical qui appuie les mouvements politiques depuis des décennies. Tout d'abord, à quelle époque et dans quel contexte est apparu ce courant musical ? Et quels styles sont concernés ?
Disons que dans les années 70, quand la culture populaire était sous la mainmise de la gauche, la jeune droite, surtout la jeune droite militante, a commencé à prendre les styles qui étaient les styles qui passaient à la radio, les styles qui étaient aussi ceux des chansons de gauche, et les adapter en chantant leur vision du monde, leur manière de leur lutte quotidienne pour la représentativité politique d'une jeunesse qui était souvent ostracisée du champ du possible. Et donc, les styles ne sont pas très différents de styles qu'on écoutait à l'époque. Les premiers vrais groupes qu'on peut considérer des musiques alternatives, c'est Janus, c'est un groupe des Roms qui reprenait les styles du rock progressif. C'était l'époque où... C'était la période où les groupes comme King Crimson étaient... au sommet et où énormément de groupes, surtout et beaucoup en Italie, reprenaient ces styles en chantant en italien. Janus a fait la même chose, mais avec des textes qui étaient politiquement engagés à droite. D'autres groupes, d'autres chanteurs ont plutôt repris les styles folk, qui étaient inspirés des chansonniers américains de protestation, comme aussi ça arrivait en France à la même période. Oui. Donc il n'y a pas un style précis. Au plus tard, ça sera à partir des années fin 80, début 90, ça sera plutôt les rock qui sera protagoniste de la musique alternative. C'est plus un état d'esprit et une manière aussi de faire réseau entre les jeunes militants pour la diffusion de cette musique.
C'est-à-dire qu'elle était diffusée dans les milieux politiques de l'époque.
Elle était diffusée dans les milieux politiques, elle était diffusée aussi à la radio, parce que c'était une époque, la fin des années 70 et 80, où il y avait un vide juridique en Italie et où il y avait beaucoup de radios libres qui s'est créées et qui pouvaient émettre sur des fréquences libres. Mmh. Et donc, beaucoup des locaux, des sièges de ce qui était les MSI ou de Front de la Jeunesse, l'organisation des jeunesses, avaient organisé leur propre radio qui émettait au niveau de la ville ou de la région. Pour faire un exemple, là, une de ces radios qui a eu le plus de succès, aussi qui a duré le plus longtemps, était basée à Milan. Ça s'appelait Radio Université. Et le principal animateur de cette radio, aujourd'hui, il est président du Sénat.
Ah oui, il y a une connexion très étroite entre la musique et les cadres politiques.
Oui, disons que c'était vraiment la musique de la jeunesse des droites, qui à l'époque était très encadrée à l'intérieur du Front de la Gioventù, du Front de la Jeunesse, qui était l'organisation des jeunesses du MSI.
Alors, pour donner une idée de ce que ça donnait, vous avez sélectionné un morceau.
Oui, du point de vue chronologique, on va commencer avec Janus, ce groupe des Roms qui était faisait dans les rock progressifs et qui était un des premiers à enregistrer un album. Et d'ailleurs, petite curiosité, les batteurs de ces groupes, il a après fait un album aussi avec des Français, avec Jacques Marchal et Olivier Carré. Ils ont fait un album en français qui s'appelle Science et Violence. Science et Violence, ouais. C'était les batteurs de ces groupes. Ouais. Et leurs albums sont aujourd'hui en rareté très collectionnés par les passionnés des rock progressifs au Japon.
Ah oui, les Japonais, c'est les... On écoute Rivoluzione.
Rivoluzione. We'll be right back.
1977, le premier camp Hobbit est organisé à Montesarchio, près de Naples. Pourquoi ces références issues des romans de Tolkien, un écrivain anglo-saxon, anglais même, dans la musique alternative italienne, et ont-elles influencé le répertoire ?
Disons qu'à cette époque, la jeunesse des droites s'est cherché des références. Or, ce qui était la nostalgie du passé du régime et qui était aussi la référence la plus présente dans la génération précédente. Donc, chercher des nouveaux mythes, de nouvelles façons de s'exprimer. Et les Seigneurs des Anneaux, désolé, les Seigneurs des Anneaux de Tolkien est devenu une référence, ouais. Un mythe qui a permis de construire un imaginaire pour toute cette jeunesse. Donc c'est à partir de là qu'on trouve les Campi Hobbit, qui était cette sorte de festival, si vous voulez, comme des Woodstock de la droite, qui donnait la place principale à la musique, la créativité, l'art, plutôt qu'à des camps de formation politique pure et dure.
C'est ça, c'était culturel.
C'était culturel. Il y avait une volonté de faire ce qu'à l'époque, dans les années 70, on appelait de la contre-culture.
C'est ça. Oui, et de montrer qu'il pouvait y avoir une culture alternative portée par un courant politique et concrètement, ça fonctionnait. C'était en été, j'imagine, qu'ils faisaient ça.
Alors, oui, les Campi Hobbit, c'était en début d'été, ça a toujours été en été, donc il faisait très chaud. On voit dans les photos, ouais. Les vidéos qui, de l'époque, il faisait très chaud.
Il y avait quelle assistance, quelle audience, combien il y avait de participants?
Alors, je crois que dans les premiers, il devait y avoir quelques centaines de participants, et après dans les suivants, il y en a eu beaucoup plus. Évidemment, là, c'était à l'époque, il n'y avait pas d'internet, c'était de bouche-oreille. Les informations circulaient surtout avec les fanzines qui faisaient dans chaque ville, étaient faites par chaque groupe militant et qui étaient envoyées par la poste dans les autres villes d'Italie. Et c'est comme ça qu'on était mis au courant des initiatives, on pouvait participer, tout passait par les moyens postaux.
Oui, oui. Et puis les radios libres aussi.
Et les radios, bien évidemment. Ouais. Oui, il y avait une communication qui avait évidemment été... aujourd'hui, on ne peut pas imaginer avec les moyens qu'on a maintenant qu'à l'époque, tout passait, et même les radios entre elles, c'est passé
les
informations via des cassettes. Ouais. Enregistrer des cassettes et les envoyer. Ouais. Avec les nouvelles musiques du groupe local, du groupe de musique alternative locale, les passer aux autres radios en Italie.
Les cassettes de démonstration.
Oui, tout à fait.
Quels sont les groupes les plus appréciés? Ah non, on avait dit qu'on passe un morceau là.
Un morceau d'un groupe qui a débuté au premier Campo Hobbit et qui prend son nom aussi de Tolkien, donc qui s'appelle La Compagnia dell'Anello, La Compagnia dell'Anneau. C'est un groupe de Padoue et qui est encore sur piste. Ils font encore des...
Existent toujours.
Certains membres, évidemment, ont changé. Certains, ils sont malheureusement décédés. Mais les noyaux durs existent toujours. Et de temps en temps, une fois par an, il y a toujours un concert événement où ils chantent des vieilles chansons, aussi des nouvelles compos.
Et ça s'appelle la chanson ?
La chanson qu'on a choisie, c'est « Anche se tutti noi no », même si tous pas nous. C'est une chanson qui ne date pas des années 70, c'est plutôt des années 90, mais qui est très représentative de ces groupes.
Ricordo ancora la stanza dove ti ho conosciuto. Non eravamo poi molti a frequentare quel buco. Stavi scrivendo sul muro, tutto indaffarato, delle parole strane ma dal chiaro significato.
anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no. Forse era solo lo sfogo di un ragazzo arrabbiato, ma io 20 anni dopo non l'ho ancora dimenticato. Perché sai, certe emozioni, specialmente se sincere, le conservi nella mente e diventano bandiere. Anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no. Cambiano facce, signori, gira la ruota del tempo, ma la vecchia canzone s'alza ancora nel vento. Stiamo buttando le ortiche per inseguire il potere, la nostra fede più antica e le ragioni più vere. Anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no, anche se tutti noi no. Qualcuno si era sbagliato, adesso tutto cambia. Viva
il libero mercato! Alors, quels sont les groupes les plus écoutés et en dehors du camp Hobbit, dans quels concerts ils arrivent à se produire? Comment ils s'organisent?
Bah, disons que, évidemment, auparavant, il y avait beaucoup plus de concerts, c'était plus simple l'organisation de concerts. Mais encore aujourd'hui, il y en a souvent en Italie, avec les faits maison, donc louer une salle et faire en sorte que les militants de la région viennent pour soutenir ces groupes. Il y a des festivals qui sont liés souvent à des organisations politiques qui ont lieu de manière annuelle et qui réunissent beaucoup de groupes qui s'exhibent parfois pendant 2-3 jours. Et il y a aussi des maisons d'édition des disques qui ont surtout deux en Italie qui continuent toujours à éditer leur catalogue et éditer des nouveautés de manière continuelle. Donc il y a toujours un public, il y a toujours de l'intérêt.
Oui, il y a un courant musical qui fonctionne et il y a une audience, il y a un public qui suit. Ouais.
Oui, il y a un public qui est, évidemment, cette musique a essayé parfois, par le passé, de sortir de la niche de la politique de la droite militante. Mais la pression de la gauche qui allait repérer les méchants chanteurs a toujours été trop fort, a toujours empêché que ces chanteurs, ces groupes aillent un vrai public sur les radios généralistes, par exemple. C'est arrivé parfois de manière un peu gasconne, avec des canulars ou avec des montages. Comme quand un chanteur romain, Massimo Morcello, qui s'est trouvé depuis certains moments exilié en cavale à l'étranger et qui continue à publier des albums, a acheté une page entière dans les principaux quotidiens de la gauche radicale, comme ça serait l'Humain chez nous, en France. et pour faire la pub de la sortie de son album. Personne s'en est rendu compte et il est passé.
C'est incroyable ça.
Oui, et la pub est passée. Évidemment, après, rigolo. Ça a été un scandale. Ouais. C'est bien, ça fait parler, ouais. Ça fait parler de cette courante.
Ah ben, on écoute justement une chanson de...
De Massimo Morcel, oui, qui a, lui aussi, il a commencé fin des années 70. Et il a continué jusqu'à sa mort prématurée à cause d'un mal pour une bonne partie de sa vie, de sa carrière, à cause de son activité politique, a dû se réfugier à l'étranger et depuis l'étranger a continué à faire des chansons et à publier des albums.
Donc c'est la chanson.
La chanson, c'est une des plus connues de Massimo Morcel, c'est I nostri canti assassini, donc nos chants assassins.
Entrammo nella vita dalla porta sbagliata in un tempo vigliacco, con la faccia sudata ci sentimmo chiamare, sempre più forte ci sentimmo morire, ma non era la morte, la vita ridendo ci prese per mano, ci levò le catene per portarci lontano, ma sentendo parlare di donne e di vino, di un amore bastardo che ammazzava un bambino, e di vecchi mercanti e di rate pagate, di fabbriche nuove e di orecchie affamate. E pregammo la vita di non farci morire, se non c'era un tramonto da poter ricordare. E il tramonto già c'era, era notte da un pezzo, ed il sole sorgendo ci negava il disprezzo. Ma sentendo parlare di una donna allo specchio, di un ragazzo a 20 anni che moriva da vecchio, e di un vecchio ricordo di 20 anni passati, di occasioni mancate e di treni perduti, e scoprimmo l'amore, e scoprimmo la strada, difendemmo l'onore col sorriso e la spada, e scordammo la casa e il suo caldo com'era, per il caldo più freddo di una fredda galera, e uccidemmo la noia annoiando la morte, e vincemmo soltanto cantando più forte. E ora siamo lontani, siamo tutti vicini, e lanciamo nel cielo i nostri canti assassini. E ora siamo lontani, siamo tutti vicini, e lanciamo nel cielo i nostri canti bambini.
On a vu tout à l'heure qu'un musicien était devenu sénateur. Il y a un chanteur d'un groupe connu qui est devenu député. Alors, dénoncé par ces groupes sont dénoncés par la gauche italienne. Comment ces courants musicaux sont utilisés par les mouvements politiques italiens pendant toute cette période ?
Disons que ces groupes ont toujours gardé, malgré le fait qu'ils étaient formés surtout par des militants avant d'être musiciens, ça a toujours gardé son indépendance. Beaucoup de ces groupes n'étaient pas les groupes du parti. Ils ont toujours été les groupes d'une façon de voir le monde, d'une militance politique diffuse. Donc, il n'y avait pas des groupes officiels de MSI ou après d'Alliance Nationale. Bien évidemment, il y a des liens directs. On sait que c'est normal que tous les jeunes qui ont commencé à militer, de toute génération, hein, moi compris, ils ont été initiés à cette musique avec la militance. Mmh. Donc ça, c'est les cassettes qu'on écoutait en allant coller des affiches la nuit. Et ça faisait partie d'une manière de faire communauté, connaître cette chanson.
Et ça chante elles peuvent se chanter, il y a des chansons qui peuvent être prises, qui peuvent être chantées en activité, en déplacement.
Oui, bien sûr, il y a des chansons qui ont plus une vocation à être chantées de manière chorale et des chansons qui ont plus vocation à être chantées guitare à la main au coin du feu.
Oui, bien sûr. On écoute une chanson de Francesco Mancinelli.
Oui, Francesco Mancinelli, ça c'est une chanson qui est très, très particulière, a été composée au début des années 80. Disons que c'est une chanson qui va clôturer une période, donc la période vraiment des années de plomb, de la violence politique, des centaines de morts et d'une guerre larvée qui a mis à faire sang l'Italie. Elle raconte toute l'épopée d'une génération qui a vécu ça et qui a vu ses rêves souvent se briser sous les balles et a continué sa militance de manière différente. Donc c'est une chanson qui résume toute une période dans l'espace d'une chanson.
On écoute.
Ti svegli una mattina e ti chiedi cosa è stato, rigettare i tuoi pensieri sulle cose del passato. Prendi un fazzoletto nero che conservi in un cassetto, cominciare tutto un giorno, forse un giorno maledetto, frequentando certa gente di sicuro differente, e un battesimo di rito con il fiato stretto in gola, quando già finiva a pugni sui portoni della scuola. E inciampare in un destino che già ti cresceva dentro da bambino, ed un ciondolo d'argento che ti tiene intorno al collo, odi amore per cercare di capire una logica ideale, una logica ideale a cui ciecamente credi, e tua madre piange sola e ti osserva dietro i vetri, perché sa che non perdona questa guerra, perché sa che non ha pace la sua terra. Un partito vecchia storia, un'eredità che scotta nell'ambiguità di sempre, come un senso di sconfitta, e ignorare circostanze, giochi assurdi di potere, che ne sai di quel passato, di nostalgiche illusioni, di un confronto che da sempre si è attuato coi bastoni, e sentirsi viver dentro a vent'anni è l'occasione per cercare di dare un senso alla tua rivoluzione. E poi una sera di gennaio resta fissa nei pensieri, troppo sangue sparso sopra i marciapiedi, e la tua generazione staglio al vento le bandiere, gonfio l'aria di vendetta senza lutto né preghiere, su quei passi da gigante per un attimo esitare.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
En Italie, ce courant musical a pu se développer et perdurer, alors qu'en France, les groupes musicaux dissidents ont toujours eu les plus grandes difficultés à pouvoir organiser des concerts. Comment expliquer cette différence de traitement ?
Bah, disons que peut-être en Italie, on a profité un peu de certain laxisme. En France aussi, hein, jusqu'aux années 90-2000, c'était possible d'organiser des concerts. La situation a empiré évidemment après. S'empirer aussi en Italie, il y a moins de concerts qu'auparavant, mais disons que l'inventivité, la manière d'échapper au contrôle continue à être pratiquée et souvent elle fonctionne. Il y a aussi une question des rapports de force politiques. Si un groupe militant ou politique qui tient les pavés dans une ville organise un concert, c'est plus compliqué de l'interdire. Il y a aussi un rapport des forces numériques, tout simplement. Donc peut-être c'est certaines choses dans certaines parties d'Italie sont plus simples à organiser plutôt qu'en France.
Et est-ce que l'arrivée de Meloni au pouvoir a permis une plus grande liberté d'expression pour ces groupes-là ou pas?
Je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas eu des changements épocaux du point de vue de la culture ou des reconnaissances officielles par cette culture des niches militantes de la part de la culture de la part de l'État. Non, les groupes et les organisateurs n'ont pas attendu Meloni pour organiser des concerts, des rassemblements ou publier des albums.
Donc on écoute une chanson du groupe.
Alors ça c'est 270 bis, 270 bis en italien. C'est un groupe, eux aussi, de Rome, qui ont eu une assez longue carrière, publié un certain nombre d'albums, en commençant avec un style très, très folk, très voix-guitare, et après en rajoutant des éléments plus rock. Ils ont la particularité d'avoir un sax dans leur formation. Les chanteurs, Marcello De Angelis, principal compositeur, a commencé à écrire ses premières chansons en prison, qui a été emprisonné pour des problèmes politiques. Et il a continué après, il est aujourd'hui journaliste, il a été député par le passé, et il reste toujours une des figures incontournables de la culture de droite en Italie.
Svegliatevi, riscotetevi, ad un cielo come una bandiera, come una pila tra le nuvole che riaffiora dalla memoria. Forse un inno o solo un sogno, il ricordo di una canzone, ma ora sale, sai, come il ritmo di una marcia dentro al mio cuore. Sui loro corpi, ha sputato sul loro nome, ha nascosto le loro tombe, ma non li possono cancellare. Qua vedete, sai, sono tutti qui, con le braccia levate al sole, sono tutti qui, lo rivedo, non fuori su che sale. Cari amici, mille anime di caduti, ma nel ricordo non li hanno uccisi. Sono i giovani da Carenzia, e i ragazzi in camicia nera, i fratelli di prima valle, e i valli dell'Emilia, che ora sono qui, sono per sempre qui, sono tornati a marciare ancora, dalle carceri, dalle foibe, dagli scrigni della memoria, mille verso me, mille dietro, e altri mille per ogni. È difficile, ma ci credo, diamo fuori su piazza Loreto. Diamo fuori su piazza Loreto. Gente mi vorrebbe al cimitero, ma io ho il cuore nero e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero.
Alors, quelques chansons ont illustré ces présentations. Pour en savoir plus, je vous recommande et vous pouvez aller sur le site de l'association Laurienne. Vous y trouverez aussi des chansons françaises. Alors, pour y aller, c'est aclaurienne.it. Je vous le recommande, il est vraiment fourni. Vous pouvez nous en dire deux mots, Angelo ?
Alors, Laurienne, c'est une association culturelle qui a pour but de préserver les patrimoines matériels et immatériels de la culture alternative italienne. Donc, la culture des droites, que ce soit la musique, les affiches, les fanzines, tout ce qui était produit par cette mouvance depuis les années 60. Ils ont aussi un archive qui concerne les chants patriotiques, mais la grosse partie de leur archive, c'est ce qui concerne la musique alternative. Et c'est vraiment un travail des titans qui a été fait pour organiser cette archive et les mettre à disposition des chercheurs et aussi toutes les textes, les discographies et des exemples de production visuelle sur leur site.
Ça a été financé au départ par un financement politique.
Comme toute association culturelle qui a une visée culturelle d'archives de la mémoire de la mémoire historique. Ça a justement eu des financements régionaux, je n'ai plus souvenir.
Je crois que c'était des élus qui ont participé.
Alors, parmi les fondateurs de l'association Laurienne, il y avait Nicolas Pasetto, qui était aussi très proche de la compagnie L'Anello et qui était élu de Milan pendant quelques décennies. Donc ils ont eu l'appui de l'État du point de vue culturel, mais comme c'est normal, comme il y a beaucoup d'autres associations de la gauche ou pas, qui en ont. Donc il n'y a pas à rougir de ça.
Non, bien sûr.
Ça aide à créer la structure, mais ce n'est pas suffisant. Donc ils sont toujours, l'association est toujours contente d'avoir des dons aussi et l'aide des privés qui voudraient participer à cette belle aventure.
Donc, si vous voulez entendre plus de ces musiques alternatives italiennes, aclaurienne.it. Et pour faire la transition, on écoute une chanson de...
Alors, une chanson de Zeta Zero Alpha, c'est un groupe qui est né en la fin des années 90, donc 98, début 2000. C'est un groupe rock qui se revendique comme groupe rock et qui fait depuis lors, il existe toujours des albums et des chansons qui ont sous-capturé un public aussi en France. Ils ont plusieurs fois joué en France et qui ont un grand suivi. Celle-ci, c'est une des chansons les plus mélodiques ou mélodieuses, c'est presque une ballade. Dans leur discographie, mais je trouve que pour le public de Radio Courtoisie, ça peut être un joli cadeau. La chanson s'appelle Disperato Amore.
Merci Angelo d'être venu à cette émission.
Merci à vous.
Tutto
Bonjour Henri Chamou, vous êtes ingénieur et vous avez soutenu une thèse en 2015 sur la diffusion des enregistrements sonores à la Belle Époque. Vous avez collecté des enregistrements rares, dont une partie est en ligne sur votre site Phonobase. Pour numériser ces supports fragiles, vous avez conçu un lecteur universel, l'archéophone. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ces documents sonores ?
Bonjour Thierry, bonjour à tous les auditeurs. C'est une histoire d'enfance. Je me suis trouvé devant une pile de 78 tours à l'âge de 8 ans, dans un grenier familial. Et je vous en parle encore aujourd'hui parce que... très jeune, j'ai cherché à localiser, à sauvegarder des enregistrements rares ou anciens, ou fragiles. Il faut savoir que beaucoup d'enregistrements, évidemment, sont conservés par des méthodes académiques dans des institutions publiques, comme la Bibliothèque nationale, les Archives nationales, mais beaucoup d'enregistrements anciens ont échappé à toute forme de conservation, puisqu'il n'a existé un dépôt légal qu'à partir de 1938 en France. Donc tout ce qui a été produit avant 1938, potentiellement, a pu échapper ou peut mériter une sauvegarde, une préservation.
Et comment... parce que ça, c'est une masse assez considérable d'enregistrements. Il n'y a pas d'inventaire, il n'y a pas de liste. Il y a pas, comment on trouve ça c'est au hasard des découvertes
Alors, il existe d'abord un travail de fond remarquable de plusieurs personnes dans le monde, en Allemagne en particulier, des discographes, des gens qui repèrent ce qui existe ou ce qui a existé. Sans forcément avoir trouvé un exemplaire, au moins, ils consignent dans des listes. La discographie est au disque ce que la bibliographie est au livre, en somme. Ils consignent des listes, et le plus bel exemple, c'est celui de Gramophone, compilé par Alan Kelly dans les années 60, 70 et 80. Ce qui a valu à Alan Kelly d'être docteur honoris causa d'une université britannique. Eh bien, ça fait 230 000 entrées pour la seule marque Gramophone.
230 000, oui.
230 000 titres produits de 1898 à 1925, à peu près. Pour Pathé en France, 110 000 titres. Pour plein d'autres petits labels, tous ensemble, 500 000 titres. Donc on peut imaginer, pour la première moitié du XXe siècle, à l'aise, 1 million d'enregistrements différents. Qui attendent une sauvegarde, en fait.
Et on estime à combien les enregistrements qui ont survécu, les supports qui ont survécu ?
Alors les supports, c'est principalement les cylindres, du début de l'invention du phonographe. 1877, Edison enregistre sur des cylindres à feuilles d'étain. 1888, on commence à enregistrer sur des cylindres de cire. Et pratiquement au même moment, on commence à produire également des disques, c'est-à-dire des enregistrements sur flanc plat. Eh bien, les cylindres ont survécu à moins d'un pour mille produits à l'époque. Et les disques, c'est un peu mieux, c'est plus difficile à estimer. Les disques ont mieux survécu. Mais il faut savoir que les disques de cette époque ont à peu près la résistance mécanique de faïence, hein, d'une assiette de vaisselle ordinaire. Donc ça casse. Les cylindres ont la résistance mécanique d'une tablette de chocolat, ça casse et ça moisit. Ce sont des supports organiques très fragiles. Donc pour ce qui est des cylindres, on en a produit un chiffre fantastique de 50 millions pour le seul marché français avant la guerre de 14. On se l'imagine peu, on ne se l'imagine pas. On imagine mal en fait, il en reste à peu près 50 000, toutes collections confondues, privées, publiques. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, à peu près un pour mille.
Oui, c'est pas... Oui, la grosse partie était complètement perdue, quoi.
Perdue ou... Il existait un journal dans les années 30 qui s'appelait Système D, un journal pour les bricoleurs, qui invitait les ménagères à dissoudre les vieux cylindres ne servant plus dans l'essence de térébenthine pour faire une cire à parquet de première qualité. Effectivement, les cylindres étaient faits en cire de carnauba. C'est une cire végétale d'un palmier... Carnauba, eh bien, c'était très certainement une cire à parquet de première qualité.
On fait une pause sonore pas musical, avec un enregistrement de 1888.
Alors, quelques mots là-dessus. Bonjour, monsieur le graphophone. Qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui? Je ne me rappelle plus le contenu exact. Mais voilà, c'est un enregistrement de 10 secondes à peu près. Il est conservé au musée des arts et métiers.
Bonjour, monsieur le graphophone.
Bonjour monsieur le graphophone, racontez-nous quelque chose s'il vous plaît. Voilà, c'est un morceau d'essai sur une machine qui s'appelait donc le graphophone, à ne pas confondre avec le gramophone. Le graphophone, c'est le travail de Chichester Bell, le cousin de Graham Bell, l'inventeur du téléphone. Et c'est la première machine qui emploie des cylindres de cire interchangeables. Cette machine a été en exposition au congrès de Bath, en Angleterre, puis à l'exposition universelle en 1889, et on peut penser que cet enregistrement date de 1889, ce qui en fait presque le plus ancien enregistrement d'expression française, si on excepte les enregistrements pionniers d'Édouard Léon Scott de Martinville, qui lui avait enregistré sa voix dès 1860, sans la possibilité à l'époque de la réécouter. Cette voix a été restituée par une équipe américaine en 2007 par des moyens informatiques à partir des documents de l'époque, les phonotogrammes d'Édouard Léon Scott de Martinville.
Qu'est-ce que c'était comme enregistrement de ces enregistrements aussi?
Alors c'était des séquences à peu près aussi courtes, fragments d'essais, au clair de la lune, des essais de diction, voilà des choses très courtes qui visait à obtenir une équivalence graphique des sons pour un examen visuel et uniquement à l'époque.
Alors, c'est la période des débuts de l'enregistrement et donc de l'industrie musicale, une période charnière puisque l'enregistrement du son est une innovation technologique sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Auparavant, pour entendre de la musique, il fallait aller au concert, jouer d'un instrument ou chanter. Comment la population et les musiciens accueillent cette innovation ?
Alors c'est très intéressant, il n'est pas inutile de rappeler que l'industrie s'est diffusée essentiellement depuis Paris, pour ce qui est de la France. Et Paris offrait plus de 50 000 fauteuils de concert à peu près disponibles tous les soirs, hein, sur les 20 premiers théâtres subventionnés, à commencer par l'Opéra Comique, la Salle Favart, et bien voilà, 50 000 fauteuils de théâtre. Il y en avait à peu près autant dans les cafés-concerts, 400 cafés-concerts à Paris, à la Belle Époque. Donc on peut imaginer, c'est assez spectaculaire, 100 000 places disponibles pratiquement tous les soirs. C'est à rapprocher des 70 000 places de cinéma qui subsistent encore aujourd'hui. Eh bien, le public s'est pas intéressé spontanément à la machine parlante. Il a fallu d'abord que la machine se colporte elle-même dans les foires. C'était une machine assez lourde, assez chère, et il fallait attirer le chaland par des auditions d'abord privées. On faisait des auditions au casque déjà à l'époque, plutôt avec l'équivalent d'un stéthoscope qui était relié au système de lecture. Eh bien, voilà, c'était des petites auditions payantes dans les foires. Et à partir de 1894, donc, un Français, Charles Pathé, muni d'une machine Edison, démarche dans les foires. Et puis, il comprend vite l'intérêt, le potentiel de créer de la musique en boîte pour le plaisir domestique. Et donc, il commence à constituer des catalogues, à demander à des artistes d'enregistrer. Mais évidemment, les artistes sont toujours des artistes très modestes, parce que pour chanter 50 cylindres, il faut chanter 10 fois devant 5 machines ou 50 fois, pourquoi pas, devant une seule machine. Donc ce n'est pas des artistes de premier rang qui vont se plier à ce jeu-là.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il fallait faire un enregistrement pour chaque cylindre. Voilà. On ne pouvait pas graver une matrice et ensuite reproduire, comme ça se fait après pour les disques. Là, c'était à chaque fois un enregistrement original.
Voilà, alors ça a été dès le début la grande supériorité du disque, celle de pouvoir être pressé facilement en série. Mais le disque, pour des raisons techniques, était moins bon que le cylindre. On préférait donc diffuser des cylindres. Mais il fallait effectivement les graver un par un. ou par l'eau, tant qu'on pouvait chanter devant plusieurs machines à la voix. Mais comme en plus, pour chanter, il fallait littéralement plonger la tête dans un pavillon en métal ou en liège. Il fallait se trouver à quelques centimètres seulement de la paroi. Et il fallait chanter assez fort pour que le système fonctionne. Eh bien, voilà, cette répétition, ces contraintes techniques, eh bien, on fait fuir les artistes de premier rang, et c'était surtout des seconds couteaux, voilà, des artistes modestes, qui n'en étaient pas moins, pour certains, d'excellents artistes d'ailleurs, mais qui ont enregistré d'abord anonymement, puis à partir de 1900, en laissant leur nom. Donc c'est assez curieux de voir des enregistrements sur lesquels, voilà, sur l'inscription desquels, sur l'étiquette, on peut lire « Grand air de Faust ». Et puis c'est tout, on ne sait pas par qui, on ne sait pas quoi, on sait juste que c'est le grand air du ténor, par exemple, et puis c'est tout. À partir de 1902, on met les noms des artistes parce qu'on maîtrise la reproduction technique en série, le moulage des cylindres, et donc... tous les artistes commencent à enregistrer au studio à partir de 1902 à peu près.
On écoute un enregistrement d'une fable de La Fontaine.
Alors ça c'est un disque pressé, mais c'est un disque pionnier de 1890. C'est un Allemand, Emil Berliner, qui a inventé le procédé d'enregistrement sur disque plat. Et avant d'importer son procédé aux États-Unis, puisqu'il était émigré aux États-Unis, eh bien, il a commencé à presser quelques disques à Waltershausen, en Thuringe, en Forêt-Noire. Et, faute de trouver des artistes, c'est lui qui parle, c'est lui qui chante. Et encore dans plusieurs langues, en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, et ici, en français, dans cette fable de La Fontaine.
Je n'ai en son tête qu'un fromage. Maître Renard, par l'odeur à l'échec, lui fait taper proche du langage. Hé, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Comment dire, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des os de ferroir. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que toute la terre...
Oui, ça craque beaucoup, c'est limite audible. Nous, avec nos sons modernes, on a du mal. Les oreilles sont plus habituées à ça. Pas comment il faisait à l'époque, ça devait être difficile.
Alors il faut s'imaginer que l'audition était peut-être un peu meilleure à l'époque avec un disque en bon état, mais on peut mettre une réserve à ce que je dis là, puisque le disque était gravé sur une seule face, et sur l'autre face, il y avait un papier imprimé collé avec le texte.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'on s'aidait du texte pour comprendre quand même.
D'accord. Et alors, à l'époque, il n'y a pas d'électricité encore. Comment fonctionnent les appareils d'enregistrement et d'écoute sonore? Quels sont les formats utilisés, la durée maximum d'enregistrement disponible?
Alors, c'est très intéressant de voir qu'Edison, en perfectionnant son instrument à feuille d'étain, c'est-à-dire en adaptant un cylindre de cire, a voulu faire une machine actionnée par un moteur électrique qui était alimenté par une pile bouteille, c'est-à-dire avec des liquides électrolytiques, etc. Eh bien, ça a fait long feu et tout de suite, on est passé à la mécanique horlogère, en fait. Donc, l'industrie, en fait, a produit des machines parlantes que l'on remontait comme des horloges avec une manivelle, un ressort, un train de pignon qui faisait tourner le disque. La reproduction sonore se fait uniquement par une pointe qui actionne une membrane au foyer d'un pavillon. C'est une reproduction purement mécanique, comme était à l'inverse l'enregistrement d'ailleurs avant l'apparition du micro, qui date que des années 1925.
Et tout est mécanique. Ouais.
Donc tout est mécanique. La durée, au grand maximum, 4 minutes et demie. Mais en général, de 2 à 3 minutes.
Ah oui, c'est calibré. Alors pour les... Les opéras, ça, c'est compliqué.
Alors on n'hésite pas à couper, à enlever un couplet ici, à tailler un da capo là, à enlever des paroles. Il y a beaucoup de chansons traditionnelles qui pouvaient chanter pendant 7-8 minutes, un quart d'heure peut-être, qui s'en trouvaient réduites d'autant, évidemment.
Alors, comme pause, on va écouter un extrait de Geneviève de Brabant. C'est la composition d'Offenbach.
C'est ça.
Le duo des hommes d'armes.
Geneviève de Brabant, duo des hommes d'armes, chanté par Charlus et Maréchal. Protéger le repos des villes,
courir sur nos mauvais garçons,
ne parler qu'à des imbéciles,
en boire de toutes les façons.
Un peu de calme après vos charmes,
c'est assez calme ici, sergent.
Ah, qu'il est beau,
ah, qu'il est beau,
d'être homme d'armes,
mais c'est dans son exigeant.
Ah, qu'il est beau,
ah, qu'il est beau,
d'être homme d'armes,
mais c'est dans son exigeant.
Ah. Bien, Rollmott, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air d'un iguanodon, là, voyons.
Ah oui, sergent.
Ne pas...
Alors... Qui enregistre et comment se constitue le marché des enregistrements?
Alors voilà, ça sont deux artistes, Charlus et Maréchal. Charlus en particulier est un des pionniers du studio, c'est-à-dire qu'il n'a pas été connu comme artiste sur les planches. En revanche, il s'est distingué en faisant une très grande quantité d'enregistrements. Et Maréchal lui emboîte le pas un petit peu de la même façon. Donc il faut imaginer un nouveau genre d'artiste qui connaît... gloire et fortune, plus ou moins, sans se produire en réalité, en se produisant uniquement dans les machines parlantes. Au passage, on vient d'entendre un enregistrement du commerce, donc de ces deux chanteurs, Charlus et Maréchal, en 1904. Ce fragment de Geneviève de Brabant qui est très réussi. Là, vous avez vu le bon technique, le bon technologique qu'on a pu faire pour obtenir une qualité sonore tolérable, sinon acceptable. Et au passage, cet air de musique a été repris aux États-Unis. Il est devenu, l'hymne des US Marines. Voilà.
Possiblement.
Non, c'est...
Il y a un air d'Offenbach qui est devenu l'hymne des Marines. C'est celui-là,
c'est
d'accord.
C'est celui-là.
Ah, d'accord.
Là, je pensais
merci pour cette précision. Voilà. Alors, qui enregistre et comment se constitue le marché des enregistrements?
Voilà, je viens de le dire un petit peu. Qui enregistre d'abord des seconds couteaux avant 1900, des artistes nommés, sinon renommés, à partir de 1900, 1902, 1903, vraiment les premiers rangs, là, les Sarah Bernhardt, les Coquelin dans pièces de théâtre comme Cyrano de Bergerac, de Rostand, ou Enrico Caruso, bien sûr, en 1902, qui fait ses premiers enregistrements dans une chambre d'hôtel à Milan. Voilà, il fallait que la machine parlante ait acquis une certaine maturité, l'industrie avec, pour que des artistes de renom acceptent d'enregistrer. Le répertoire, pour la France, essentiellement de l'opéra, de l'art lyrique, je vais dire, opéra, opéra comique, opérette bouffe. On a du mal à imaginer le nombre de spectacles qui se produisaient. L'opéra le plus connu de la génération 1900, c'est Faust de Gounod. On jouait Faust 400 fois par an, pratiquement, à Paris. Donc Faust, sur 15 000 titres recensés, à lui tout seul, c'est plus de 200 fragments. 15 000. Voilà, donc un bon tiers de lyrique, un petit tiers de café-concert. Alors, le café-concert, c'est la chanson leste, ça comprend le comique troupier, la chanson de gommeuse, de pétroleuse, ou de style tout à fait équivoque, avec des contenus à faire frémir aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y a l'addiction, les monologues, une très faible portion de monologues, de fragments de pièces de théâtre. Le reste pour les orchestres d'harmonie.
Alors, vous pouvez présenter votre phonobase, le plus ancien enregistrement, quelques titres spécialement significatifs ?
Alors, le plus ancien enregistrement, on en a entendu un tout à l'heure, là, c'était « Bonjour, monsieur le graphophone ». Des titres significatifs, je pense aux chauffeurs d'automobile. On a du mal à imaginer le succès de cette chanson. Voilà, c'est un aperçu sur la mufflerie moderne, personnifié par le chauffeur d'automobile.
On l'écoute, le chauffeur d'automobile.
Favorite record.
Ah ah, vous prenez pour un cocher de siècle, vous autres? Eh ben, pas du tout. Je suis chauffeur d'automobile. Voyez plutôt. J'ai lâché d'un cran mon ancien carcan. Maintenant, je vis tranquille. Je viens plus rupin, je n'ai plus de tapin. Je fais la pige au copain. Je suis conducteur d'un fiacre automobile. Une bête à soigner, pas besoin de souhaiter, il n'y a qu'à se laisser aller. On brille quand on voit courir à la voiture de la ville. Et je suis chauffeur de automobile dans la ville. Et je suis tardard comme si j'avais le feu qui parle. Ah ah, la place au monde, car du progrès, voyons.
Alors, pour accéder à ces enregistrements, il faut aller sur phonobase.org. C'est votre site où vous avez tous les enregistrements.
Voilà, c'est le nom du site. Vous avez évoqué l'archéophone tout à l'heure. C'est la machine qui sert à lire les cylindres que j'ai conçus. Un genre de tourne-disque moderne, mais qui, au lieu de faire tourner des disques, fait tourner des cylindres. Qu'on peut voir sur archéophone.org. Une bonne introduction à la phonobase, c'est phonobase.hypothèse au pluriel, .org. Vous avez là les dernières nouvelles, les dernières entrées, au cas où sur la base de données, vous sachiez pas quoi chercher. Voilà.
Il y a de la matière. On peut chercher un auteur, on peut chercher
un interprète, mais si on ne sait pas, on va sur phonobase.hypothèse.org et là, il y a...
Vous avez combien d'enregistrements sur votre...
Il y en a 16 000 à ce jour.
16 000, c'est assez considérable.
Et on extrapole aussi vers des enregistrements plus modernes, pourquoi pas du temps de la Deuxième Guerre, parce qu'il faut savoir qu'il existe énormément d'enregistrements qui ont échappé à toute méthode de conservation et qui sortent aujourd'hui encore des greniers. Récemment, l'histoire d'un particulier qui sort d'un grenier un ensemble de disques gravés par des prisonniers dans leur stalag. Ces prisonniers avaient obtenu des fonds de la YMCA de Genève pour monter un studio dans leur stalag parce qu'ils étaient musiciens dans le civil. Et les voici jouant du jazz ou des fragments de musique classique, trio de Haydn ou déclamant. Alors je propose un morceau de jazz, là, Nuage de... Django Reinhardt.
Merci Henri d'être venu dans cette émission et d'avoir présenté votre phonobase. Et j'invite les auditeurs à aller sur cette base pour découvrir quantité d'enregistrements extraordinaires. On écoute Nuage. Merci, chers auditeurs. Et puis, merci à Angelo, merci à Henri pour cette émission. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission dans 4 semaines. À bientôt. Au revoir.
Vous venez d'entendre Dissidence musicale dirigée par Thierry de Cruzier, émission préenregistrée le 9 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 13 juin de 21h30 à 23h et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros. Ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.